Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddei.
Bonjour, bon week-end. On va commencer cette émission avec Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques. Il a créé son propre institut de sondage. Et qu'est-ce qu'il observe? Que le centre s'effondre. C'est autour des extrêmes aujourd'hui que se bâtissent les consensus, à droite comme à gauche. Je recevrai ensuite un économiste atterré, c'est Henri Sterlignac, et Karine Hahn à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol.
Europe 1.
Jean-Yves Dormagen, bonjour.
Bonjour.
Donc, professeur de sciences politiques, vous avez travaillé sur les sondages et la constitution d'échantillons représentatifs pendant une bonne quinzaine d'années, hein, avant de créer votre propre institut, Cluster 17, qui élabore notamment le baromètre politique de l'hebdomadaire Le Point. Alors, qu'est-ce que vous pointez dans le numéro de cette semaine? Eh bien que ça n'est plus le centre qui rassemble, mais les extrêmes. Le centre s'effondre, c'est-à-dire Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire?
Oui, alors c'est pas tout à fait un effondrement, c'est plutôt une érosion. C'est une érosion qu'on observe d'ailleurs depuis la dernière élection présidentielle, hein, depuis 2022. Donc effectivement, régulièrement, on voit que la base électorale de d'Emmanuel Macron et de Renaissance se réduit. Et comme vous l'avez dit, alors elle se réduit avec des dynamiques qui sont, on le voit aujourd'hui, très nettement favorables au Rassemblement national d'un côté, et plus globalement à un espace de droite plutôt identitaire, conservatrice, qui aujourd'hui pèse environ 40% dans les sondages. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il se réduit au bénéfice en grande partie à gauche du Parti Socialiste. Hein, l'organisation, enfin la liste Parti Socialiste Place Publique est celle qui bénéficie aujourd'hui le plus de l'érosion sur sa gauche du macronisme. En gros, le macronisme perd de tous les côtés. Il perd à gauche, il perd à droite. Et effectivement, il s'érode de manière assez conséquente.
Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que l'électorat de droite se focalise sur Jordan Bardella, qui est en train de dépasser Marine Le Pen. Marion Maréchal réalise la plus forte progression, plus 15 points en un mois. Éric Zemmour, c'est plus 12 points. Et le premier dans l'électorat de droite appartenant à LR, c'est Éric Ciotti, qui n'est que 8e. Et à gauche, vous dites que c'est François Ruffin qui est le plus concentré dans l'ensemble de la gauche, comme Jordan Bardella l'est dans l'ensemble de la droite. C'est là où je disais, ça n'est plus le centre qui rassemble, mais les extrêmes.
Oui, en tous les cas, il y a une sorte de logique bipolaire qui se remet progressivement en place. Alors on verra si le phénomène va jusqu'au bout, mais il y a une sorte de logique bipolaire qui rappelle un peu l'ancienne logique gauche-droite, sauf que ce ne sont plus les mêmes acteurs qui l'incarnent. Effectivement, le Rassemblement national devient de plus en plus une alternative politique à vocation majoritaire. On voit que les intentions de vote aujourd'hui pour les élections européennes sont très élevées, parfois plus de 30%. On voit aussi que Marine Le Pen est la personnalité politique préférée des Français, que Jordan Bardella est lui aussi très haut dans les enquêtes de popularité, hein, puisqu'il est troisième dans le baromètre de popularité que nous faisons avec le magazine Le Point. Donc, effectivement, vous avez aussi une progression de Marion Maréchal. Donc, on voit que cet espace politique-là est en train d'incarner, en gros, ce qu'était la droite française auparavant. Hein. C'est en gros l'espace du sarkozysme et ce qui était l'espace de la droite. Et vous avez une logique un peu bipolaire qui se remet en place aussi de l'autre côté, avec une personnalité comme François Ruffin, qui effectivement est très haut, hein, il est le second dans notre baromètre. Et comme vous le disiez, il a la particularité d'être populaire sur tous les segments de la gauche, c'est-à-dire qu'il plaît beaucoup depuis les individus qui se considèrent comme très à gauche jusqu'aux individus qui se considèrent de centre-gauche, qui réussissent cette équation, que de l'autre côté, comme vous l'avez souligné aussi, Jordan Bardella réussit. C'est-à-dire que Bardella a la sympathie d'un large spectre, qui va des électeurs se considérant comme très à droite jusqu'au centre droit. Et derrière ces phénomènes, moi, j'ai tendance à avoir une sorte de retour à une bipolarité politique qui rappelle encore une fois un peu l'ancien clivage gauche-droite, sauf qu'il n'est plus incarné effectivement par les mêmes figures, mais par des figures qui sont issues les uns de la droite radicale, les autres plutôt aussi de la gauche radicale. Et ça dit aussi quelque chose de la polarisation de la société.
Et pour les européennes, qu'est-ce que vous observez, Jean-Yves Dormagen?
On observe que le Rassemblement national est très haut. Hein. Le dernier sondage que nous avons réalisé le mesure à 30%. Donc le Rassemblement national aujourd'hui est très haut. Et plus globalement, l'ensemble des droites qu'on peut qualifier d'identitaire, de conservatrice, représente environ 40% des suffrages. Donc un peu la même chose qu'en Italie, hein, par exemple, où Giorgia Meloni est la présidente du Conseil et a gagné les dernières élections législatives. C'est à peu près le même rapport de force. On observe une progression du Parti socialiste et de Place publique, de la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Une situation assez difficile pour les écologistes à gauche et une érosion, alors c'est pas un effondrement, c'est plutôt une érosion, mais une érosion assez régulière de la liste Renaissance, qui fait qu'aujourd'hui, entre la liste Renaissance et la liste socialiste, il n'y a plus que 5 points d'écart, c'est pas beaucoup finalement.
Et la popularité de François Ruffin ne bénéficie pas à la liste La France Insoumise?
Non, mais François Ruffin, je pense, est perçu comme un individu, un électron libre, un individu hors parti. Il est finalement assez peu assimilé à la France Insoumise dans l'opinion, ce qui explique d'ailleurs qu'il soit populaire dans des segments modérés de l'opinion. Le centre-gauche, donc des électeurs qui jusqu'à présent votaient massivement pour Emmanuel Macron, ont une grande sympathie, enfin dans les sondages, déclarent une grande sympathie pour François Ruffin. Donc c'est quelqu'un finalement qui est apprécié très au-delà de l'espace de la France insoumise et de cet espace partisan auquel il est finalement assez peu associé dans l'opinion.
Je voudrais, Jean-Yves Dormagen, qu'on s'arrête un instant sur la méthode utilisée par votre institut de sondage Cluster 17, parce que c'est une méthode assez innovante et qui a suscité pas mal de critiques au départ, y compris de la part de la commission des sondages. Mais bon, maintenant, c'était il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous différencie des autres instituts de sondage?
Oui, alors depuis 2 ans... on a prouvé qu'on faisait des très bons sondages, et pas seulement en France d'ailleurs. On a été très performants sur l'élection présidentielle de 2022. On était les seuls à avoir observé que Renaissance n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a aussi fait des sondages sur d'autres pays. En Espagne, on a été les meilleurs. On a été classés comme les meilleurs sondeurs en Espagne. On avait observé qu'en Espagne, les droites, contrairement à ce qui était annoncé cet été, ne gagneraient pas les élections législatives. Donc je crois qu'on a prouvé par l'épreuve des faits, notre capacité à sonder et à bien sonder. Ce qui nous distingue principalement, c'est notre approche de l'opinion. Plutôt que d'utiliser les méthodes traditionnelles d'analyse qui, selon nous, sont aujourd'hui assez peu performantes et assez peu explicatives, on a un système de segmentation de l'opinion par groupe de valeurs. C'est-à-dire qu'on réunit les individus en fonction de leurs valeurs profondes sur des sujets qui nous semblent être des sujets déterminants aujourd'hui. Ça peut être des enjeux de société, ça peut être le féminisme, l'homoparentalité, ça peut être le rapport aux migrants, le rapport à l'islam, le rapport à l'économie, le rapport aux élites. Donc sur tous ces sujets-là, on réunit les individus par sensibilité. On a 16 groupes. Si vos auditeurs veulent faire le test sur notre site, ils verront comment ça fonctionne et à quelle famille politique ils appartiennent. Et cette analyse par famille politique, par sensibilité idéologique, permet, je crois, de voir assez finement les dynamiques qui traversent la société, la manière dont évoluent les rapports de force, de comprendre les dynamiques électorales, et pas seulement d'ailleurs, d'avoir une lecture plus globale de ce qui se passe dans la société.
Je vous interromps, Jean-Yves Dormagen, on va faire une pause et on y revient tout de suite après.
9h, 10h.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques. Il est aussi le patron de Cluster 17, un institut de sondage qui élabore notamment le baromètre politique de l'hebdomadaire Le Point. Vous ne travaillez pas seulement pour Le Point, et bien entendu, vous avez travaillé avec le Cluster 17 sur le nouveau clivage écologique. Où est-ce qu'il se situe aujourd'hui, d'après vous, en France ?
Ce qu'on observe, c'est que contrairement à certaines idées reçues, il n'y a pas de consensus en fait sur les enjeux écologiques. Alors, il n'y a déjà pas de consensus dans la société sur l'origine humaine du changement climatique. Il y a quand même un quart des Français qui considèrent que ce changement n'est pas lié aux activités humaines, n'est pas lié à la production de gaz à effet de serre en particulier. Donc là, déjà rien que sur le constat lui-même, il y a moins de consensus que ce qu'on pourrait parfois imaginer dans la société. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une très forte résistance aujourd'hui dans certains clusters, hein, dans certains des segments de la population que l'on étudie. Il y a une très forte résistance aux politiques de transition écologique sur les enjeux, par exemple, de la voiture. Il y a des fortes résistances, hein, l'interdiction de vendre des voitures à moteur thermique à l'horizon 2035 passe assez mal dans l'opinion, pour prendre un exemple concret. On sait qu'il y a aussi de fortes résistances à l'installation de parcs éoliens dans les zones rurales. Les populations concernées y sont très majoritairement hostiles. Et sur tout un tas de sujets qui ont trait à la transition écologique, on voit monter les résistances. Ce qui se répercute d'ailleurs dans les positions des acteurs politiques.
Mais ça n'a rien à voir, j'ai l'impression, avec ce qui se passe aux États-Unis, où vous avez Donald Trump, par exemple, qui a pu dire franchement des choses qu'on qualifie de climato-négationnistes, quasiment. En France, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus dans les méthodes de transition que ça diverge.
Oui, en France, il n'y a pas de prise de position ouvertement climato-sceptique, c'est-à-dire qui nie le changement climatique. Ne serait-ce que parce que l'ensemble des Français, ou presque, est convaincu de l'existence de ce changement. Quand vous faites des études là-dessus, vous apercevez que 97% des Français considèrent que le climat est en train de changer. Donc sur ce point-là, il y a un consensus. Là où il commence à y avoir du désaccord, là où il commence à y avoir des résistances, c'est plutôt sur les origines humaines. Oui. Mais même sur ce plan-là, effectivement, il y a peu d'acteurs politiques qui contestent ouvertement et frontalement le consensus scientifique et, en gros, les positions du GIEC et des savants qui travaillent sur le climat. Là où il y a effectivement des oppositions qui surgissent et des discours opposés, c'est sur les politiques elles-mêmes. Et c'est aussi sur l'idée que, finalement, l'écologie serait un prétexte utilisé par certains pour imposer un changement des modes de vie ou un changement des habitudes des Français. Si vous voulez, c'est que derrière l'enjeu écologique, il y aurait d'autres enjeux cachés. Ce discours-là est de plus en plus porté par le Rassemblement national en France, par exemple. Marine Le Pen a pris des positions qui allaient dans cette direction en disant que, en gros, c'était une écologie punitive portée par des idéologues dont le but, finalement, au-delà des questions climatiques, était de transformer, d'imposer de nouveaux modes de vie, de changer le mode de vie des populations. Et ce type de discours est assez bien accueilli dans toute une partie de l'opinion.
Jean-Yves Dormagen, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on en a déjà parlé dans cette émission parce que c'est tout à fait nouveau, c'est le clivage entre hommes et femmes qui est en train de remplacer le clivage de génération. Est-ce que vous l'avez constaté dans vos études d'opinion ?
Oui, tout à fait. Alors, on a fait sur ce sujet une grosse enquête qui sera publiée dans Le Point le 25 avril. Et qui est un sondage qui donne des résultats, me semble-t-il, assez passionnants, parce qu'on voit que ce clivage qui générationnel que l'on connaît assez bien et qui est assez logique, on sait qu'en gros, depuis toujours, les nouvelles générations sont plus progressistes et les personnes plus âgées, les seniors, ont tendance à être plus conservateurs sur les questions sociétales, sur tout un tas de sujets. On voit que la situation est en train de se compliquer par l'apparition d'un nouveau clivage de genre au sein des catégories les plus jeunes de la population. Il y a de très grosses différences de valeurs et d'opinions entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau et qui, d'ailleurs, n'est pas spécifiquement français. C'est quelque chose qui a été observé aux États-Unis, qui a été observé dans un pays aussi comme la Corée, qui a été observé en Tunisie. C'est-à-dire dans des contextes extrêmement différents où on voit de plus en plus les hommes et les femmes s'opposer et s'opposer de manière de plus en plus radicale sur des sujets de société très importants.
Donc en gros, les femmes sont de plus en plus de gauche, les hommes de plus en plus de droite, ce serait ça ?
Oui, d'une certaine manière, ce serait ça. C'est-à-dire quand vous regardez les positions des jeunes femmes et des jeunes hommes sur tout un tas de sujets de société, par exemple l'écriture inclusive, alors des sujets qui sont directement liés au genre, hein, vous avez des différences qui sont très importantes, enfin, qui sont des différences de 30 points, 40 points sur certains sujets, mais ça va au-delà des enjeux de genre directs. Alors c'est sur ces questions de genre que les écarts sont les plus forts, mais ça va aussi, ça porte aussi sur des questions comme les migrants, par exemple. Les jeunes femmes sont très massivement hostiles à l'expulsion des migrants en situation irrégulière, pour prendre un enjeu de société actuel. Donc ils sont très opposés, alors que les jeunes hommes, ils sont plutôt favorables. Et là, vous avez vraiment des différences de genre qui sont importantes. Ça se traduit dans les votes aussi. Les jeunes femmes ne votent quasiment jamais Reconquête, n'ont quasiment pas voté Éric Zemmour à l'élection présidentielle, alors qu'une part significative des jeunes hommes ont voté pour cette candidature. Donc, vous avez vraiment un clivage de genre chez les jeunes qui est très fort et très marqué.
Merci Jean-Yves Dormagen, un sujet dont on reparlera probablement, mais d'abord on a rendez-vous avec un économiste atterré, c'est Henri Sterdyniak. Henri Sterdyniak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes polytechnicien, vous faites partie des fondateurs de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, et du collectif des économistes atterrés. Vous êtes l'un des co-auteurs de Penser l'alternative, le livre qui vient de sortir chez Fayard. Il est sous-titré « Réponse à 15 questions qui fâchent ». Alors au moment où la situation économique de la France est qualifiée de fâcheuse, justement, avec un endettement public record de 5,5% du PIB et une cure d'austérité de plusieurs dizaines de milliards promise par Bruno Le Maire dans le but de revenir aux 3 points d'endettement du pacte de stabilité européen en 2027, il m'a semblé intéressant de savoir ce que préconise un économiste de gauche. Notre endettement public est-il aussi grave pour vous qu'on le dit ?
Disons que ce n'est pas aussi grave. Disons que la France n'est pas une situation particulière. On a des grands pays comme le Japon, comme les États-Unis, comme l'Italie, qui ont des dettes publiques nettement supérieures à la nôtre. Notre problème, c'est qu'on a l'Allemagne qui est tout à fait particulière et on est dans une zone euro où on veut nous imposer des normes de déficit et de dette publique que ne respectent pas les autres pays.
C'est le résultat de quoi, pour vous, cet entêtement record ? D'un excès de dépenses ou de la faiblesse des recettes ?
Disons d'abord à l'échelle macroéconomique, c'est le fait que le capital l'a emporté sur le travail. À l'échelle mondiale, il y a un déficit de demande, donc on est plus ou moins obligé d'avoir des déficits publics dans un grand nombre de pays, sauf les pays qui peuvent s'en sortir en ayant un excédent extérieur. Mais tous les pays ne peuvent pas avoir un excédent extérieur. Et dans le cas de la France, on a d'abord le fait que on a un ralentissement économique qui nous coûte quand même environ 2 points de PIB de déficit. Et puis on a eu une stratégie de politique économique, de baisse des impôts, mené par les gouvernements successifs de Macron, qui font que, grosso modo, on manque de recettes.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous ? Augmenter les recettes, donc augmenter les impôts, mais on nous dit que la France est déjà championne du monde des prélèvements obligatoires avec 46%.
Non, il faut surtout changer d'orientation. Hein. Je veux dire, on a eu une politique dans laquelle on a baisser fortement les impôts des entreprises sans rien leur imposer en contrepartie. On a réduit un certain nombre d'impôts des plus riches. Il faut renverser en quelque sorte la vapeur. Il faut mettre des contraintes plus lourdes sur les entreprises. Les entreprises doivent distribuer moins de dividendes, moins de rachats d'actions et doivent investir plus, en particulier pour la transition écologique. On a besoin d'investissement et ça nous arrangerait beaucoup que les sommes énormes dont disposent les entreprises soient effectivement investies pour la transition écologique. Et par ailleurs, on a des couches supérieures en France qui ont beaucoup, beaucoup d'épargne. On a 154 milliards de déficit public cette année, mais en face, on a environ 130 milliards d'actifs financiers supplémentaires épargnés par les couches les plus riches. Donc les couches les plus riches épargnent trop, c'est elles qui détiennent la dette publique et qui en sont responsables en quelque sorte. Donc il faudrait réduire un peu la richesse des plus riches qui épargnent beaucoup et plutôt aider les plus pauvres qui, eux, consomment directement.
Mais Henri Sterdyniak, pendant ce temps-là, l'État, lui, continue d'emprunter sur les marchés financiers. Or, les taux d'intérêt ont augmenté. Est-ce que le coût de la dette ne risque pas de devenir insupportable ?
Disons, on a une bonne nouvelle, c'est que les marchés financiers ne s'affolent pas. C'est-à-dire que l'écart de taux avec l'Allemagne n'a pas augmenté. C'est toujours 0,5 points. On s'endette au même taux que la Belgique, que l'Autriche, que la Finlande, que un grand nombre de pays vertueux. Au total, on s'endette à 2,8%, ce qui est normalement est inférieur à la croissance qu'on en valeur qu'on prévoit. Donc la dette, jusqu'à présent, n'a pas un coût exorbitant. Et donc
faut continuer.
faut remercier les marchés financiers. Il faut voir que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'épargne, de gens qui cherchent désespérément des placements sûrs. Et donc, naturellement, la France s'est considérée comme un des pays les plus sûrs. Si vous êtes un fonds de pension américain, vous choisissez la France parce que quand même c'est plus sûr que l'Italie et ça rapporte plus que l'Allemagne. Donc on n'a pas de problème et les marchés financiers ne s'affolent pas. Ils font confiance à la France, contrairement au discours qu'on entend. Ils savent très bien qu'en France, on peut, si nécessaire, restaurer rapidement nos finances publiques. Le problème, c'est qu'il faut pas faire chuter l'activité, parce que chuter l'activité, c'est plus de chômage, donc il faut un arbitrage subtil.
On fait une pause, Henri Sterdyniak, on y revient tout de suite après. Henri Sterdyniak est mon invité ce matin. Il fait partie des économistes atterrés qui publient « Penser l'alternative » aux éditions Fayard. Le livre est sous-titré « Réponse à 15 questions qui fâchent ». Alors, je les lui pose, toutes ces questions qui fâchent, pas toutes, mais certaines. Le rôle de la Banque Centrale Européenne, par exemple. En relevant ses taux directeurs, elle a augmenté la charge de la dette et en même temps, elle a freiné la croissance en Europe.
Oui, bien sûr. Il se trouve que la Banque Centrale Européenne considère que sa grande mission, sa seule mission, c'est de briser l'inflation. Depuis une quarantaine d'années, il y a une sorte de mode qui s'est établie à l'échelle mondiale, disant la Banque Centrale, ça doit être un organisme dont la seule mission est de briser l'inflation. Et donc, c'est ce que continue à faire la Banque Centrale Européenne, bien qu'actuellement, il n'y a plus d'inflation en France. On a eu un chiffre de 2,3% le mois dernier. La Banque Centrale Européenne continue à avoir des taux trop élevés qui brisent la construction et l'investissement des entreprises. C'est un des éléments contre lequel il faut lutter à l'échelle européenne.
Le vieillissement de la population française, est-ce que ça condamne à plus ou moins brève échéance, à votre avis, le modèle social français ?
Le modèle social français, c'est un choix politique, c'est un choix social qu'on peut maintenir si la majorité des Français le souhaitent. C'est un système dans lequel on dit « il est normal que les retraités aient le même niveau de vie que les actifs ». Il est normal qu'on aide les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Il est normal qu'on aide les familles avec enfants et on les aide pas assez. Il est normal que la santé soit gratuite pour les maladies les plus graves et peu coûteuse pour les autres. C'est un choix social. Si on est prêt à payer pour ça, on peut le maintenir. C'est un choix social.
Mais il faudra payer de plus en plus, c'est ce que vous avez l'air de dire.
Il faudra payer une certaine proportion de notre revenu, sachant qu'en contrepartie, on profitera plus longtemps de notre retraite si effectivement, puisque l'espérance de vie continue à augmenter. Je veux dire, quelle est l'alternative ? Est-ce qu'on souhaiterait qu'effectivement, de nouveau, les personnes âgées soient dans la pauvreté ? On peut pas sérieusement le souhaiter. Et puis, on a des prévisions du corps qui nous disent, on peut tenir le choc. Je répète, il y a un choix social à faire. Est-ce qu'on accepte une légère baisse du niveau des retraites ? Est-ce qu'on accepte une légère hausse du taux de cotisation ? C'est un choix social. Ce qu'il faut dire, c'est que les retraites, c'est un droit social qui est acquis par des cotisations. Donc les jeunes qui cotisent aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils auront effectivement une retraite demain.
Le chômage est-il trop rémunéré et pendant trop longtemps ? C'est une question qu'on commence à se poser aujourd'hui, notamment notre Premier ministre, Gabriel Attal.
Le le chômage n'est pas rémunéré, hein, le chômage il est indemnisé. Il est indemnisé pour 40% des personnes inscrites à Pôle emploi, à France Travail. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi et qui ne sont pas indemnisées. L'indemnisation moyenne, c'est 1111 euros. Donc, on ne peut pas considérer que c'est des sommes importantes. Le problème, c'est que le gouvernement est lancé dans une campagne visant à détruire progressivement le modèle social européen, français, à détruire l'idée que, on a droit, que les travailleurs qui sont au chômage ont le droit à une certaine période pour retrouver un emploi avec un niveau de vie pas trop dégradé. Et l'idée maintenant, c'est on va réduire fortement la durée d'indemnisation. Ensuite, on va les mettre directement au RSA. Et au RSA, on va leur un RSA de très bas niveau et on va leur mettre des contraintes supplémentaires. L'objectif, c'est de forcer les travailleurs à accepter n'importe quel emploi avec des mauvaises conditions de travail, un bas salaire. C'est contraire à l'idée. Les prestations chômage, c'est un droit. Il faut que les gens aient une certaine possibilité de trouver un emploi qui leur convienne.
Mais c'est pas par sadisme, Henri Sterdyniak, si le gouvernement réfléchit à ça. C'est parce que le poids des transferts, c'est la plus grosse part des dépenses publiques. Aujourd'hui, c'est pas les services publics qui coûtent le plus cher à l'État. Ce sont les transferts, dont les cotisations chômage ou la sécurité sociale ou les retraites.
Non, c'est pas par sadisme. Je veux dire, les classes dirigeantes estiment bien sûr que les protections sociales, ça coûte cher. Les classes dirigeantes estiment que les salaires, ça coûte cher. Ça a toujours choqué les classes dirigeantes de dire quoi? On est obligé de payer des retraités ou des chômeurs qui travaillent pas. C'est scandaleux. Non, je veux dire, ça fait partie de notre modèle social que se dire voilà, on prend en charge les salariés puisque la protection sociale est payée par des cotisations sociales. Les salariés ont choisi de prendre en charge les retraités, les malades, les familles, les chômeurs à un niveau convenable. Ça protège les salariés et en même temps, naturellement, les classes dirigeantes aimeraient bien imposer aux salariés des sacrifices.
Est-ce qu'il faudrait un peu plus de protectionnisme, à votre avis, Henri Sterdyniak ?
Le grand problème de notre économie, c'est que, un, il faut prendre le tournant écologique, et deuxièmement, il faut réindustrialiser. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, malheureusement, en ce qui concerne la transition écologique et même la transition numérique, on n'est pas compétitif, si on veut dire, par rapport aux énormes machines chinoises ou américaines. Et donc, soit on se résigne à petit à petit décliner, soit effectivement, il faut prendre des mesures fortes pour protéger nos industries, en particulier les industries dont on va avoir besoin pour la transition écologique. Et donc, il faut pas avoir de fausse pudeur et dire clairement, la Chine et les États-Unis soutiennent massivement leurs industries. Nous, en Europe, on doit faire pareil, et en particulier les industries d'avenir.
Merci Henri Sterdyniak. Pensez l'alternative, c'est signé par plusieurs économistes atterrés comme vous. Et ça vient de paraître chez Fayard. Le sous-titre, c'est « Réponse à 15 questions qui fâchent ».
Voilà, merci.
Et l'on va maintenant retrouver Karine Anne à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol.
Europe 1.
Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'émission d'Isabelle Morizet, c'est le samedi de 13h à 14h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Isabelle reçoit Patrick Chenet et Laurent Gamelon qui sont à l'affiche de la pièce Secret.s au Théâtre de la Madeleine à Paris.
9h, 10h,
c'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Karine Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous vous passionnez depuis de nombreuses années pour l'œuvre de Marcel Pagnol, dont on commémore le 50e anniversaire de la mort. Vous lui avez consacré vos études à la Sorbonne, votre mémoire de maîtrise, vos recherches de doctorat et un livre, Marcel Pagnol, un autre regard, qui vient d'être réédité en poche chez Litos. 50 ans après sa mort, Pagnol est toujours aussi populaire ?
Toujours aussi populaire. Il fait partie des 50 auteurs classiques les plus lus. Donc c'est quand même une belle performance. Et il est toujours aussi populaire, probablement aussi parce qu'il est intemporel et universel. Donc il traverse le temps.
Alors justement, c'est une question de temps que j'ai envie de vous poser parce que pour moi, il y a trois pagnols. Il y a d'abord l'auteur de théâtre qui connaît son premier succès à 33 ans avec Topaz, puis le Triomphe avec Marius et Fanny. Il se tourne ensuite pendant 20 ans vers le cinéma en réalisant Angèle à 39 ans, puis César, le Schpoons avec Fernandel, La femme du boulanger, La fille du puisatier, Topaz, Manon des Sources. C'est un grand cinéaste, hein, oui. Marcel Pagnol. Et puis à plus de 50 ans, il revient vers le théâtre avec deux pièces, Judas et Fabien, mais sans grand succès. Il arrête donc assez vite les frais. Et à 62 ans, c'est en tant qu'écrivain qu'il atteint la gloire grâce à ses souvenirs d'enfance. La gloire de mon père d'abord, puis le château de ma mère, puis l'eau des collines à 68 ans, le temps des secrets enfin, qui restera inachevé et paraîtra après sa mort. Alors ces trois pagnols, l'auteur de théâtre, le cinéaste et l'écrivain, on a tendance à les confondre et pourtant, il y a entre 30 et 40 ans qui les séparent. Est-ce que c'est le même ?
Alors c'est le même et c'est quelqu'un de très différent. Voilà, il y a deux prismes. Oui, c'est le même parce que ces trois époques en fait sont naissent de sa curiosité permanente. C'est-à-dire que il voulait réussir, il est donc monté à Paris, il devient le prince du théâtre et quand il entend parler du cinéma parlant, il se dit mais c'est formidable, on va pouvoir entendre murmurer au fond de la scène en fait le public qui se trouve au dernier rang, eh ben va pouvoir maintenant voir un acteur murmurer. Donc il est très intéressé et il part vers cette nouvelle aventure. Et pourquoi est-ce qu'il quitte le cinéma ? C'est parce que les majors deviennent très 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 importants, qu'il faut que ça devienne de très gros budgets. Il a plus cette liberté qu'il avait justement de partir avec son équipe dans les collines. Et c'est là aussi, avec des drames personnels, mais en tout cas c'est là aussi qu'il décide de se tourner vers l'écriture. Donc il y a une logique de continuité par la curiosité. Il disait moi j'aurais aimé être n'importe qui au 21e siècle. Donc il y a cette logique, j'allais dire, de l'homme. Maintenant, le créateur, c'est aussi quelque chose de qui le caractérise. Par exemple, dans la littérature, c'est que vous avez quand même très peu de littérateurs. Je pense qu'il y a Victor Hugo, Camus et Sartre qui sont en fait les seuls littérateurs à s'être essayés à tous les styles comme ça. C'est-à-dire que Pagnol, c'est à la fois le dramaturge, le mémorialiste, le romancier.
Il y a Cocteau.
Il y a Cocteau aussi peut-être, oui. Mais quand on regarde en fait tous les grands écrivains, ils ne sont pas aussi nombreux à s'être essayés avec bonheur et succès à tous ces genres littéraires. Et Pagnol, c'est un touche-à-tout. Et c'est vrai que vous avez cité L'eau des collines et les souvenirs d'enfance. Ce sont deux façons d'écrire très différentes et dans lesquelles il a eu un immense succès aussi.
Il y a des thèmes récurrents chez Pagnol, hein, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Est-ce que ces thèmes s'adaptent à tous les genres, justement ? Par exemple, il y a le thème « on est faible quand on est pur ». Mmh. Ça, vous notez que c'est présent à la fois dans Topaz, dans le Schpoons, dans La gloire de mon père, dans Jean de Florette.
Bien sûr.
Oui, donc ça se répartit assez dans tous les genres auxquels s'est adonné Marcel Pagnol au fur et à mesure des années.
Bien sûr, et je prends le thème de ce qu'on appelait à l'époque la fille mère, qui frémit en fait dans toute son œuvre. C'est un thème qui puise évidemment sa source dans la réalité, puisque c'était le cas d'Augustine.
Alors oui, c'était une des informations qu'on a dans votre livre, Karinane, c'est que si le thème de la fille mère revient à la fois dans Angèle, dans Marius et Fanny, dans Naïs, dans Regain, dans La fille du puisatier, dans Jean de Florette, puisque la mère de Jean de Florette l'a eu sans être mariée, c'est parce que la mère de Marcel Pagnol, elle-même, était tombée enceinte du père de Marcel Pagnol, mais avant qu'il soit marié. Et ils ont eu un bébé qui n'a pas survécu.
Né
avant Marcel. Donc.
Voilà, et on se doute bien qu'à cette époque, ça a été très difficile pour Augustine, et Pagnol en voulait un petit peu à Joseph, en fait, de lui avoir fait subir ça.
Mais comment l'a-t-il su ? Est-ce qu'on sait ?
Ah non, alors ça par contre, je n'ai pas cette information-là, mais en tout cas, il le savait, ça c'est une évidence. D'ailleurs, il est beaucoup plus... Augustine est un personnage dans les souvenirs d'enfance qui est sans tache, c'est une sorte de vierge pure, elle est magnifique, elle est fragile, il l'aime, il est plus dur avec Joseph. Et on voit que quand effectivement il lui fait dire que c'est toi qui m'as fait cela, mais jamais je n'arriverai à mettre cet enfant au monde, etc. C'est, évidemment, c'est une transfiguration, c'est l'imaginaire de l'écrivain. Mais pour revenir à ce que vous disiez très justement, on se rend compte que ce thème, il va le convoquer dans chaque département, j'allais dire,
au théâtre, au cinéma, dans ses souvenirs
et dans son roman, puisque vous soulignez effectivement le cas des Soubérans dans l'eau des collines. Et en fait, même quand il va aller emprunter des œuvres comme chez Zola avec Naïs ou chez Giono avec Angèle, on aura encore ce thème-là.
Exactement.
Donc c'est vraiment quelque chose qui va le hanter toute sa vie. Et j'en profite d'ailleurs pour dire une chose, c'est que contrairement à ce que certains disent de Pagnol en disant mais oui, cette espèce de culpabilité, alors ils prennent évidemment la scène de la femme du boulanger, te voilà, garce, salope, etc. Oui,
qui est la femme adultère.
Qui est la femme adultère, voilà, la pécheresse à qui on jette la première pierre. Ça n'est pas du tout le prisme de Pagnol. En réalité,
non,
ces jeunes filles...
Pardonne, d'ailleurs.
Non seulement il pardonne, mais ces jeunes filles, il les réhabilite. C'est elles qui sont porteuses vraiment de l'honneur. Fanny dit, quand on lui dit, mais ne dis pas à Panis que tu es enceinte, elle dit, mais ça serait ça le vrai déshonneur. Donc c'est elle, en fait, qui va...
Mais là, vous confondez la femme adultère et la fille mère. La fille mère...
Oui, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on entend des gens, oui, vous avez tout à fait raison, mais quand on entend des gens dire, oui, alors cette espèce de culpabilité de l'enfant hors mariage, mais c'est un contresens manifeste de l'œuvre de Pagnol.
Mais
au contraire.
Vous faites remarquer, Karinane, qu'il est toujours... Il idéalise les mères, Pagnol,
oui.
Hein, dans la plupart de ses œuvres. Pas les pères, vous l'avez
non.
dit. Les géniteurs sont rarement là au moment où l'enfant paraît.
Oui, et alors le contre-exemple serait Honorine, mais Honorine, elle a quelque chose de très masculin, en fait, la mère de Fanny.
Voilà.
D'ailleurs, elle dit à un moment donné, j'ai été son père. Vous avez tout à fait raison. L'enfant, et c'est là où c'est très joli, et d'ailleurs, c'était le cas aussi dans sa vie, hein, puisqu'il a eu des enfants hors mariage avec des femmes qu'il a aimées. L'enfant, c'est la marque de l'amour, en fait. L'enfant paraît lorsque l'amour est là. En fait, c'est vraiment le fruit de l'amour, l'enfant. Et c'est pour ça que cette jeune fille, même si aux yeux de la société elle est déshonorée, elle se bat pour cet enfant, elle reste debout pour cet enfant. Et ce que j'adore chez Pagnol, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ce que prône Pagnol, c'est le courage.
Compris pour l'homme de revenir.
Voilà, mais c'est en fait... Oui, l'amour, c'est prendre un risque. Oui, l'amour, on peut souffrir, mais faut y aller. Parce que c'est ça la vie. Et ça, chez Pagnol, ce courage de vivre, il est en chacun de ses personnages et c'est ça qui le rend magnifique.
Il y a le choix des mots hein, chez Pagnol. C'est un conteur et un dialoguiste aussi
magnifique.
Extraordinaire.
Ah oui, vraiment.
Et il y a beaucoup de poésie.
Énormément. Énormément. Et la poésie est parfois, j'allais dire, contrée, mais dans le sens noble du terme, par l'humour. C'est-à-dire que quand ça devient trop poétique et qu'on pourrait basculer dans une sorte de drame, immédiatement l'humour, Pagnol citait Bergson en disant « il n'y a pas de plus grand ennemi à l'émotion que le rire », immédiatement Pagnol nous fait rire. Donc il y a toujours cette alternance entre humour et poésie qu'on retrouve dans toute son œuvre et qui est l'une des marques de son style.
La Provence est toujours là. Est-ce que c'est un écrivain régionaliste
non,
pour vous ?
Non, surtout pas. Giono était un écrivain régionaliste et c'était assumé d'ailleurs chez lui. La Provence de Pagnol, c'est une Provence sublimée, c'est un topos littéraire, c'est une sorte de refuge qu'il nous décrit en réalité. D'ailleurs, la Provence de Giono n'est pas celle de Pagnol, celle de Giono est plus au nord. Et Pagnol est quelqu'un qui dit l'universalité, on l'atteint en restant chez soi. Mais oui, parce que c'est ce microcosme provençal est à l'image en réalité du macrocosme. Et les sentiments évoqués par Pagnol, le maître mot étant l'amour d'un père pour son fils, l'amour d'une femme pour un homme, l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'une terre, l'amour d'un pays, l'amour d'un travail. Tout ça, c'est le dénominateur commun. Et cette Provence, elle est là pour être le creuset, justement, de son imaginaire.
Là où ils se rejoignent peut-être, Giono et Pagnol, vous voyez dans l'œuvre de Pagnol, une épopée du pain.
Oui,
la
et
femme
de l'eau.
Du boulanger, hein, qui est au départ une nouvelle de Giono. On se souvient que le boulanger refuse de continuer à faire du pain tant que sa femme ne reviendra pas.
Oui.
Et puis, il y a une épopée de l'eau aussi, dans Regain, qui est là aussi un texte de Giono adapté au cinéma par Pagnol, mais aussi dans Jean de Florette ou dans La fille du Puisatier.
Oui, et pourquoi j'emploie le mot d'épopée ? Parce que quand vous allez sur l'eau des collines, où là, vraiment, l'eau est un véritable enjeu, encore plus que dans la femme du boulanger, parce que là, c'est tout un village qui est privé d'eau, il y a ce retournement à la fin, où en fait, le César Soubéran découvre qu'en réalité, il a tué son fils. Et Jacqueline Pagnol m'avait dit...
Jean
de Florette était son fils. Et Jacqueline Pagnol m'avait dit... Marcel a eu l'idée de ça à la fin. Il était en train d'écrire. Un matin, il est descendu, il dit « Je viens d'avoir une idée. » Et là, on bascule dans quelque chose de fondamentalement tragique, en réalité. Et il y a quelque chose des Atrides, en fait, chez les Soubérans. C'est-à-dire, ils se tuent entre eux à l'arrivée. Donc là, effectivement, on a une dimension. C'est pour ça que j'emploie le mot d'épopée, parce qu'on atteint au drame absolu, en fait.
Merci, Karine Anne. Je renvoie à la lecture de votre livre. Marcel Pagnol, Un autre regard. Il vient d'être réédité en poche chez Litos pour les 50 ans de la mort de Marcel Pagnol.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Dans un instant, ce sera face à Philippe de Villiers, animé par Elliot Deval. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1.
9h, 10h.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.